Bel après-midi avec Olivier Delacroix, il est 15h. 15h, 16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi, comme tous les jours, de vous retrouver pendant une heure en compagnie de ma camarade Ambline. Comment allez-vous, ma chère ?
Ça va bien. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
On est en forme. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie car votre vécu nous intéresse. 5 à 10% de la population serait atteinte d'addiction sexuelle. Pour ces dépendants, tout ce qui a trait au sexe est une véritable drogue. Passer des heures à regarder la pornographie, devoir faire l'amour sans cesse, il n'y a plus de désir mais du besoin, des pulsions irrépressibles. L'addiction sexuelle est aussi taboue qu'insupportable à vivre. Notre société a beau être ultra sexualisée, la dépendance sexuelle est honteuse. Elle rend les relations amoureuses confuses, les comportements parfois dangereux et surtout à risque. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît les comportements sexuels compulsifs comme un désordre mental. Mais pourtant, il n'existe encore aucun traitement adapté à ceux qui en sont victimes. Quel est le quotidien d'une personne addicte au sexe ? Comment gère-t-elle ses pulsions incontrôlables ? Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui. L'addiction sexuelle, quelle est cette maladie taboue ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous composez le 39 21 50 centimes la minute, le standard d'Europe 1, 39 21, Twitter hashtag Europe 1. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour en parler, nous accueillons tout d'abord Samir sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Samir.
Bonjour.
Quel âge avez-vous ?
39.
39 ans. Alors Samir, vous avez beaucoup de recul sur votre situation. Hein. Vous préférez d'ailleurs parler de compulsivité sexuelle plutôt que d'addiction. Pourquoi ?
Oui. Parce que ce n'est pas une substance en fait. Le sexe, et ça engage une relation à l'autre, une relation à soi et un comportement sous-jacent qui a tendance à devenir compulsif. Voilà. Mmh. C'est pour ça que je fais la distinction. Le sexe ne peut pas se consommer comme on consommerait une drogue ou de l'alcool. Il y a tout un mode d'action qui est hautement plus complexe.
Mmh. Voilà. Dès votre plus jeune âge, vous sentiez que votre rapport au sexe était différent de celui des autres. Il était très présent lorsque vous étiez jeune.
Oui, j'ai des souvenirs de alors ce que j'appellerais avec le recul aujourd'hui pulsion sexuelle, mais quand vous avez 4 ou 5 ans, vous ne savez pas ce que c'est, mais j'ai des souvenirs très prégnants de ces pulsions depuis le plus jeune âge, hein, envers la jeune féminine. J'étais très précoce et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était, sachant que j'ai grandi dans une société et une famille ultra conservatrice où c'était plus qu'un tabou, mais c'était vraiment un interdit qui était fortement réprimé. Mmh. Donc on associe un très jeune âge la sexualité à quelque chose de mauvais, de mal, et on se hait pour ça. Il y a une haine de soi, une honte. Arrivé à un certain âge, on se rebelle contre ça, et on se libère, mais cette libération n'est en fait pas vraiment libératrice parce que c'est une sorte de frustration qui n'en finit pas.
Est-ce que vous y voyez la cause majeure de ce que vous ressentez aujourd'hui, de ces pulsions justement, cette éducation que vous avez reçue et justement le fait qu'on ne parle pas de sexe dans votre milieu ?
Alors, c'est difficile de refaire l'histoire, et c'est difficile de refaire son histoire. Ça a certainement participé. Qu'aurais-je été si j'avais eu une vie affective et sexuelle on va dire équilibrée, normale, celle qu'aurait eu n'importe quel jeune adolescent, quoique il n'y a pas de normes
Il n'y a aucune norme.
Donc certainement ça a été un facteur très aggravant, structurant, mais il y a aussi un facteur qui est psychologique et biologique, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Nous ne sommes pas tous égaux face à la libido.
En tout cas, on ne peut pas lier vos pulsions au fait que vous venez d'une culture où le sexe était très tabou. Vous avez eu deux relations amoureuses longues à la fin de la seconde, qui a duré 7 ans hein, quand même. Vous avez voulu assumer ce que vous ressentiez. C'était quoi ? Oui. C'était quoi ce que vous ressentiez concrètement ?
Alors, ce que je ressentais, c'est une obsession. Là, je préfère vraiment parler d'obsession sexuelle physique. Oui. Et aujourd'hui, bon, 25 ans après la puberté, on apprend à vivre avec. Ce sont des pensées obsessionnelles qui commencent du matin où l'on ouvre ses yeux au soir quand on les ferme, et souvent même pendant la nuit, pendant les périodes de rêve. Mm-hmm. Donc ce sont des pensées slash pulsions, parce que je fais bien la différence entre les deux. Avec le temps, j'ai appris à faire la différence entre une pulsion et une pensée, parce qu'une pensée peut très vite se transformer en pulsion. Mmh. J'ai pratiqué la méditation, l'observation de la pensée, et savoir justement retenir la pensée avant qu'elle se transforme en pulsion et de la garder juste en tant que pensée. Mais ces pensées sont extrêmement récurrentes dans la journée. Elles rythment ma vie, rythment mon existence du matin au soir, au travail, chez les clients, en société, dans les transports, partout. Mmh. Et on vit avec, comme un bruit de fond permanent auquel on accorde un peu moins d'importance avec l'âge. Mais pour revenir à votre question, le bruit s'est fait tellement prégnant au bout d'un moment que j'ai dû arrêter ma relation j'en suis fortement peiné encore aujourd'hui, parce que tout se passait bien, on s'entendait bien, c'était une candidate parfaite pour une union de vie.
Ouais.
Mais j'ai préféré assumer pour ne pas imploser.
Alors, on va continuer à en parler dans quelques instants, et puis revenir dans cette seconde partie d'émission justement sur le fait de savoir si vous connaissez l'origine de ces pulsions. Pour ça, vous restez en ligne avec nous, Samir, et on se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. On parle de l'addiction sexuelle cet après-midi, cette toxicomanie sans produit. Ça vous concerne, n'hésitez pas à venir témoigner au 3921. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Vous êtes sexe addict, c'est une souffrance, ou au contraire vous assumez vos pulsions? Le 3921 pour nous appeler.
Et nous sommes toujours en ligne avec Samir qui nous expliquer justement avoir ces pulsions et les assumer. Hein. Samir, j'ai envie de vous demander au final, lorsque vous avez fini cette relation qui a duré 7 ans avec cette femme que vous disiez être la candidate parfaite pour prolonger sa vie, quelle a été votre vie ensuite pendant 5 ans lorsque vous avez assumé ces pulsions ?
Ça a été en même temps une ascension et une descente aux enfers. Hein. Mmh. Une ascension parce que j'étais en train de réaliser mon fantasme et mon rêve d'adolescent. Que
vous les assumiez donc ?
Ouais. Voilà, je les assumais. Mais en même temps, et là on peut faire le parallèle avec l'addiction à la drogue, la consommation, parce qu'on rentre dans une forme de consommation et d'une objectivation de l'objet sexuel et de l'autre, elle n'est jamais à la hauteur du fantasme. Ou alors le fantasme est de courte durée et s'ensuit ensuite une déception, une frustration, une haine de soi même parfois. Et on se retrouve à redevoir rechercher à nouveau le prochain shoot, la prochaine personne, et le prochain rapport. Et rapidement, enfin pour moi ça a duré 5 ans en tout, mais en gradation avec une année et demie, 2 ans de fin qui était plus intense, au bout desquels je me suis rendu compte qu'il fallait arrêter les bêtises, et que ça, j'ai réalisé que ça ne menait nulle part en fait, et qu'il fallait trouver une autre solution.
Mais concrètement, en fait, lorsque vous dites que pendant 5 ans vous avez assumé toutes ces pulsions, c'est que vous êtes allé loin et que vous avez fait tout ce qui se pratiquait, partouze, échangisme, vous êtes allé de plus en plus loin.
Alors non, moi pas forcément. C'était pas en termes d'extrême. Moi j'ai toujours pratiqué des pratiques sexuelles tout à fait conventionnelles avec des partenaires choisis, mais c'était plus dans la quantité, la fréquence, le nombre de personnes que je voyais. Ça pouvait être plusieurs personnes par semaine,
voire par jour.
Oui, par jour, oui, c'est possible. Après, il est à noter une chose, hein, quand on est boulimique, quand on a une addiction au chocolat, on va au supermarché, on achète du chocolat. Mm-hmm. Si on veut de la drogue, c'est un peu plus compliqué, mais on peut en avoir. Or, le sexe, c'est tout autre chose. Il faut, à moins d'être psychopathe, malade mental ou forcer les gens, et auquel cas on tombe dans une autre catégorie, ce n'est plus de l'addiction.
On a un travail de séduction à entamer avant.
Voilà. Exactement, voilà. Et donc, auquel cas, bon, bah, plusieurs par jour, ça peut arriver. Plusieurs personnes en quelques jours, plusieurs rapports avec différentes personnes en quelques jours, ça peut arriver. Mais c'est vraiment au terme de tout un système, toute une préparation, tout un effort sur soi, tout un travail social pour y arriver, qui finit par complètement prendre le dessus sur votre vie.
Alors, vous faites le parallèle entre, très clairement, à la dépendance à la drogue, en même temps que la vôtre au sexe. Est-ce que vous avez fini par comprendre d'où elle vous venait, cette dépendance au sexe ?
C'est une question que je n'ai cessé de me poser au jour d'aujourd'hui. Je n'en ai aucune idée.
Comme on se la pose lorsqu'on est addict à la drogue.
Pardon ?
Je dis, comme on est addict à la drogue, on se pose éternellement cette question.
C'est compliqué parce que les pulsions envers les substances, si vous voulez, les substances peuvent vous apporter un certain plaisir limité, mais ça reste des substances extérieures. Mmh. Mais quand on a une érection, quand on a une pulsion, quand on a une belle personne qui passe à vos côtés, vous croisez un regard et que ça vous transporte,
ça vous
envahit
impacte
complètement. Ouais, ouais. Voilà, là, c'est vraiment à ce moment-là. J'ai beau me poser la question, mais la question, elle n'atteint même pas le cerveau. C'est pas possible. On est complètement subjugué, interdit, et on n'a qu'une seule envie, c'est d'y aller.
C'est de consommer.
Voilà. Pour moi, c'est même plus de l'ordre du rationnel. Et malgré tout, moi, j'ai suivi une thérapie assez longue, spécialisée par rapport à ça. On a retourné les choses dans tous les sens, mais au final, on peut chercher, trouver des causes, mais est-ce que ça va vraiment réussir à annuler ça? Non, certainement pas. Par contre, on apprend à gérer. Mm-hmm. C'est-à-dire que on rétablit l'humanité de la personne à laquelle on a affaire en face. On arrête de considérer les personnes juste pour son propre plaisir et essayer de rentrer dans l'humain, et ça complique forcément les choses, mais nous sommes humains, il faut l'assumer. Donc c'est une partie de moi que j'ai appris à assumer, et c'est pour ça que là, depuis 2 ans, je suis pratiquement abstinent pour trouver ma paix, et j'y vais vraiment au compte-gouttes, comme lorsqu'on arrête de boire, ou lorsqu'on arrête la consommation d'une drogue et qu'on décide que c'est fini.
En tout cas, Samir, aujourd'hui, il est bon de vous entendre dire que vous allez mieux. Vous avez fait cette thérapie. Vous avez aussi témoigné dans le livre « Sex Addict » de Florence Sandis et de Jean-Benoît Dumonté. Ce livre « Sex Addict », en même temps que la thérapie, a dû vous faire du bien. Parler, ça vous a fait du bien d'en parler.
Énormément, énormément. Effectivement, ça m'a permis de prendre du recul, ça m'a permis de voir que je n'étais pas seul, ça m'a permis de lire d'autres témoignages, et ça a été libérateur. Et d'ailleurs, depuis, j'ai vraiment entrepris un gros travail de prise de recul. Et surtout, je pense que le maître mot pour les gens qui nous écoutent, c'est s'accepter. Mm-hmm. Il faut s'accepter.
Accepter comme une maladie, accepter qu'on est malade.
Oui, Oui, alors, maladie, le terme, moi, m'a toujours mis un peu mal à l'aise, mais s'accepter. Voilà, accepter ce que l'on est. Mais accepter ne veut pas dire subir et faire n'importe quoi. Ça veut dire écouter cet appel intérieur, le voir pour ce qu'il est. Bah, les pulsions sont là, je les gère, je les écoute sans les réprimer, mais sans pour autant les laisser diriger ma pensée, diriger mes actions complètement. Et je pense aussi, pour finir sur une note heureuse, je pense que l'amour permet... si on l'écoute vraiment et qu'on arrive à trouver des personnes avec qui il peut germer de vraiment de façon positive, tout en ayant du recul sur soi, bah ça permet énormément de calmer la chose.
Une clé énorme qu'est l'amour. Merci infiniment Samir pour votre appel et votre témoignage au 39-21 aujourd'hui. Nous allons maintenant accueillir le docteur Laurent Carilla pour en parler. Il est psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif.
Europe 1.
Vous avez un comportement qualifié d'hypersexuel, vous êtes sex addict, appelez-nous le 3921. Vous écoutez, vous échangez avec Olivier Delacroix au 3921. Vous êtes addict au sexe, vous tentez de résister à vos envies sans pouvoir y parvenir, vous témoignez et vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec le docteur Laurent Carilla, psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur Europe 1. Docteur, dans le cas de l'addiction sexuelle, est-ce que c'est quelque chose qui peut se... quantifier d'abord, et à quel moment parle-t-on d'addiction ?
En fait, de base déjà, l'addiction sexuelle, on parle aussi de comportement sexuel compulsif, c'est une addiction qui est comportementale, ça c'est le premier point, et il y a une espèce de définition de base des addictions, on peut dire comportementales. Moi j'utilise toujours ce moyen mnémotechnique pour faire comprendre aux gens ce que c'est le moyen mnémotechnique des 5 C, comme la lettre C, c'est un usage continu, le premier C, avec des compulsions, avec un craving, le craving c'est l'envie irrésistible de consommer, avec une perte de contrôle et des conséquences sur la santé physique, mentale et sociale. Alors, l'addiction sexuelle, on peut pas on quantifie pas au nombre de rapports, si vous voulez, c'est plutôt, il faut se focaliser sur le temps passé, la perte de contrôle et puis les conséquences en fait.
Samir nous parlait de pulsions. C'est cela qui caractérise une addiction sexuelle ?
Ouais, en fait, ces pulsions-là, elles se réfèrent à ce qu'on appelle au craving, c'est ce terme américain qui veut dire envie irrésistible de consommer, en fait.
Ouais.
C'est des envies à crever d'avoir du sexe, en fait. C'est un signe fort dans la dépendance et pas que dans la dépendance sexuelle.
Où est-ce que cette addiction sexuelle, elle trouve son origine ?
Si vous voulez, l'addiction, elle est multifactorielle. On ne peut pas dire je suis sexe addict parce que voilà, j'ai eu un problème dans mon enfance ou je suis sexe addict parce que j'ai eu un problème au cerveau, etc. Il faut comprendre que l'addiction, c'est en fait des désordres du développement personnel, de notre puberté, de notre maturation cérébrale. Il y a des troubles psychologiques associés qui peuvent émerger, comme je sais pas, on est un peu plus déprimé, un peu plus anxieux. Il y a des problèmes... environnementaux aussi, il y a la disponibilité des supports sexuels sur Internet, ça fait exploser l'addiction sexuelle. Il y a aussi comment notre cerveau a réagi face à des choses, des traumatismes dans l'enfance, d'autres maladies. Et puis il y a une partie génétique qui doit être évoquée. Alors c'est pas forcément parce que dans notre famille on a des sex addicts qu'on va être sex addicts, mais c'est plutôt s'il y a des antécédents familiaux d'addiction dans la famille, quelle que soit la substance ou le comportement, eh ben, on a plus de risques d'être addict. Et tous ces facteurs doivent être bouleversés pour qu'on soit addict.
Alors chez les femmes, il semble que l'on parle de nymphomanie, et chez les hommes, on parle de satyriasisme.
Satyriasisme.
Quelle est la différence ?
C'est des vieux termes. Non, c'est des vieux termes, ça.
Ouais.
C'est des vieux termes. Il faut parler... en gros, la nymphomanie, c'était l'équivalent, si vous voulez, de l'addiction sexuelle féminine et le satyriasisme masculine. Mais il faut sortir de... Enfin, c'est des jolis termes qu'on peut mettre au Scrabble.
Ouais, d'accord.
Mais maintenant, il faut parler de... d'addiction sexuelle ou de troubles hypersexuels pathologiques ou de comportements sexuels compulsifs. Et après, les critères sont identiques pour les hommes et les femmes.
L'addiction sexuelle, elle est très mal vue parce qu'on considère souvent que les personnes qui en sont atteintes sont comme des pervers sexuels. C'est pourtant très différent, non ?
Ouais, c'est complètement différent. La perversion sexuelle, c'est un comportement qu'on appelle paraphilie en langage médical.
Ouais.
C'est le voyeurisme, le sadomasochisme. Ce sont des activités sexuelles. En tant que perversion sexuelle, ce sont des activités sexuelles qui sont uniquement centrées sur un seul comportement, et s'il n'y a que ce comportement qui procure du plaisir, si vous voulez.
Mmh.
Alors que bon, on peut avoir, nous, enfin, dans une activité sexuelle, on va dire lambda, on peut avoir un peu de voyeurisme, on peut avoir un peu d'exhibitionnisme,
mmh,
on peut jouer un peu à des jeux sadomaso. Mmh.
Alors, avec Samir, on a parlé d'addiction à la drogue, d'addiction à l'alcool. Est-ce que cette addiction au sexe, elle se soigne aujourd'hui, et est-ce qu'il existe des traitements à l'addiction sexuelle?
Oui, on a monté à l'hôpital Paul Brousse, on a monté une consultation spécialisée sur cette question-là depuis 2008, si vous voulez. Et au départ, c'était très mal perçu, si vous voulez, en 2008, l'addiction sexuelle, ça n'existe pas, c'est quoi ce gag, c'est pour passer dans les médias. Et en fait, on a de plus en plus de patients et de patientes maintenant qui viennent consulter pour ça. Et en fait, c'est des programmes de soins qui sont assez longs, qui combinent d'abord de la psychothérapie,
ouais,
plutôt comportementale, pour stabiliser le trouble. Les gens viennent pour « j'ai un problème avec le sexe, donc le trouble, c'est le sexe, on va essayer de contrôler les choses ». Bien évidemment, on ne vise pas l'abstinence en sexe, mais plutôt la régulation du comportement. Et il faut toujours évaluer s'il y a des problèmes psychologiques en dessous et les traiter.
Mmh.
C'est un traitement qui est assez long. Une fois qu'ils sont stables, moi, je les envoie souvent aussi faire une psychanalyse.
D'accord. Docteur Laurent Carilla, je rappelle que vous êtes psychiatre-addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous restez en ligne avec nous pour continuer à nous apporter vos éclairages. Notamment, on reviendra sur ces sites pornographiques à l'accès si facile aujourd'hui, et notamment pour les mineurs. Est-ce qu'ils changent justement le comportement de nos enfants par rapport au sexe? En attendant d'accueillir Dany, qui lui était addict à la pornographie, et cela a considérablement altéré son rapport aux femmes et aux relations sexuelles.
Europe 1.
Vous êtes addict au sexe, comment arrivez-vous à gérer vos pulsions au quotidien? 3921 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez aussi nous écrire et poser vos questions, vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous composez le 3921 pour nous appeler, pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Vous êtes addict au sexe, comment le vivez-vous au quotidien? On continue d'en parler avec vous, et voici Patrick Bruel avec « Pas eu le temps ».
Pas eu le temps de regarder passer ma vie, ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami, pas eu le temps. Pas eu le temps de bien préparer mes bagages, pour être prêt à regarder sur mon visage toutes les marques que le temps laisse à son passage. Pas eu le temps, il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. D'avoir su apprendre à aimer, me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées, ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés. Pas eu le temps, pas eu le temps de faire le tour de mon quartier, c'était toujours plus loin que je voulais aller. Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater. Pas eu le temps. Mais plus il passe et plus je l'aime, ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. Mais plus il passe et plus je l'aime, ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais être avec ses rêves plein la tête. Et il est trop lâche, il va trop vite, le temps passé me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps.
De son nouvel album, ce soir on sort Patrick Bruel avec Pas eu le temps. Vous êtes dépendant sexuel, vous témoignez au 3921,
oui.
Vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Dany. Bonjour Dany, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous?
26 ans.
26 ans. Alors Dany, vous avez commencé à consommer de la pornographie à l'âge de 13 ans. Vous avez aimé cela tout de suite. Vous l'avez consommé comment, cette pornographie? Vous l'avez consommé sur Internet?
Dès l'accès à Internet, ça a été donc du coup sur Internet, oui. Mmh.
Donc ce qui veut dire que ça a été votre première représentation du sexe, ça, à 13 ans?
Bah, il s'avère que même pas, en fait. Je dis 13 ans, mais c'est peut-être 14, en fait. Hein. Mmh. Moi, j'ai commencé très tôt à avoir des relations sexuelles avec ma première petite amie. Je devais avoir 13 ans, justement. Mais ça m'a pas empêché, après, d'aller sur de la pornographie, en fait. Donc à 14 ans, 13-14 ans.
D'accord. Votre consommation a empiré. Et à quelle fréquence vous regardiez donc des films porno et des sites porno?
Au maximum 3-4 fois par jour.
Mmh. Et votre corps, est-ce que, parce qu'il y avait de l'action en même temps que vous regardiez tout ça, est-ce que votre corps suivait?
Honnêtement, beaucoup de fatigue. Mmh. Parfois presque même des malaises, enfin pas des malaises réels, mais vraiment presque la tête qui tourne et tout ça. Mmh.
Je crois savoir que pour vous, c'était vraiment un refuge, hein, cette addiction au porno. Un refuge par rapport à quoi exactement?
Je pense à un manque affectif.
Mmh. Un manque affectif, c'est-à-dire?
Manque d'amour.
Manque d'amour. Cette consommation à outrance, cette représentation de la sexualité, est-ce qu'elles ont, au final, altéré vos rapports aux femmes, puisque vous dites avoir eu des rapports très jeunes avec les femmes? Est-ce que ça a altéré donc ces rapports aux femmes?
Oui, heureusement, ce n'est pas parti comme c'est le cas dans la pornographie. C'est-à-dire que la pornographie, c'est un homme qui va prendre plutôt qu'un partage d'amour. Donc du coup, à force de consommer ce type de contenu, on va presque modéliser, en fait, ça.
Oui.
Donc j'ai eu la chance de tomber sur des femmes qui se respectaient et donc du coup qui disaient non.
Oui.
Donc Dieu merci. Mm-hmm. Et donc du coup, ben, je suis resté sur ce refuge de la pornographie qui est du coup ben, une facilité, quoi. Mm-hmm.
Alors, ces femmes, justement, qui vous disaient non, cela vous a-t-il frustré ou quelle réaction vous avez eue par rapport à ça? Vous l'avez compris?
Je l'ai bien compris et elle nous ramène à la part de nous-mêmes, justement, en tout cas moi, elle m'a ramené à la part de moi-même qui est consciente qu'elle n'est pas ce type de comportement, qu'elle est autre chose, que tout ça, c'est une facette de moi, mais que ce n'est pas moi. C'est une douleur qui est en moi, une ombre, mais que ça ne m'appartient pas, ce n'est pas moi. Mmh. C'est quelque chose qui a été créé et que je maintiens par des pensées, mais que je dois m'en séparer. Quelque chose à guérir, en fait.
Mmh. Une addiction qui vous a entraîné vers un repli sur vous, une forme de honte sociale et une sorte de honte envers vous-même.
Beaucoup de culpabilité, notamment.
Beaucoup de culpabilité. Je me tourne vers vous, docteur Laurent Carilla. Je rappelle que vous êtes psychiatre, addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. L'addiction au sexe va-t-elle nécessairement de pair avec l'addiction à la pornographie?
En fait, dans l'addiction sexuelle, il y a différentes formes d'addiction, en fait. Et parmi ces formes-là, on a ce qu'on appelle les activités sexuelles en ligne. Et dans ces activités sexuelles en ligne, il y a notamment la pornographie en streaming, quoi, sur Internet ou avant, avec cassette vidéo et DVD, quoi.
D'accord. Et lorsque vous entendez le témoignage de Dany, comment est-ce que vous l'analysez, ce qui arrive à Dany, ce repli sur lui-même suite à cette honte qu'il ressent, cette honte sociale?
Ça fait partie de la clinique de l'addiction sexuelle, si vous voulez, ces symptômes-là. Cette culpabilité, cette honte, ce désespoir, c'est vraiment une triade classique à chaque, on va dire, passage à l'acte, si vous voulez. Donc, les sex addicts, ils sont, par exemple, ils vont consommer à outrance du porno sur Internet, faire des webcams, faire des jeux sexuels, etc. Et eux ce qui les met en flamme, si vous voulez, les sex addicts, c'est pas d'avoir un orgasme ou d'éjaculer, c'est tout ce qu'il y a du début du déclenchement des choses à justement cette fin d'orgasme. Mais après ce plaisir, on va dire entre guillemets, qui est plus réellement un plaisir, il y a toujours cette triade de honte, de désespoir et de culpabilité. Mmh. Et ça se chronicise avec le temps. Mmh.
Bon, en tout cas, Dany, je sais qu'aujourd'hui, ça va mieux pour vous. Je vous remercie mille fois d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1 aujourd'hui. Docteur Laurent Carilla, vous restez avec nous en ligne pour continuer de nous apporter vos éclairages. Dans quelques instants, nous accueillerons Hope29. Hope29, c'est bien évidemment un pseudonyme qui, lui aussi, vit une addiction sexuelle. Et il s'est mis à donner des conseils sur Internet.
Europe 1.
Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Dany qu'on vient d'entendre. On a également envie de vous entendre. 39-21, l'addiction sexuelle, vous connaissez. Venez nous raconter votre histoire. Vous pouvez aussi nous écrire et réagir via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. L'addiction sexuelle ou la consultation frénétique de sites pornographiques, la multiplication d'aventures sexuelles, ça vous concerne? Et comment évaluer le trop de sexe? Vous êtes avec Olivier Delacroix, on vous attend au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Hope29, qui préfère nous parler sous pseudonyme. Bonjour et merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, bonjour. Merci à vous.
Quel âge avez-vous?
J'ai 30 ans.
Vous avez 30 ans. Alors, vous avez consommé de la pornographie à haute dose. À partir de quand exactement?
Alors, en fait, moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, en fait, en tombant par hasard sur une cassette VHS, parce qu'à l'époque, c'était les VHS, oui, de mon frère. Et à ce moment-là, en fait, je me sentais dégoûté et en même temps excité, fasciné par ça. Et au fur et à mesure, en fait, voilà, j'ai commencé à consommer de plus en plus. Et ensuite, en 2006, bah, avec l'apparition des sites de streaming de porno voilà, sur Internet, de façon haut débit et accessible, illimité et gratuit, ma consommation, c'était tous les jours, quoi. Et c'était aussi un moyen pour moi de dormir le soir. Donc, j'allais là-dessus pour dormir. Donc, c'était un faux moyen, quoi. À côté anesthésiant. Et aussi, voilà, comme je suis quelqu'un de nature anxieux et stressé, donc... C'était comme une sorte de médicament pour moi.
Mais au-delà d'avoir cet effet donc, de vous endormir, hein, de vous relaxer, est-ce que ça vous procurait quelque chose de particulier, d'autre? Parce que généralement, la pornographie, ça peut exciter. Or, vous me racontez que vous, ça avait plutôt un effet apaisant pour vous.
Il y avait aussi le côté excitant. Hein. C'était cette transe qu'on appelle la transe où on est dans la recherche, en fait. Ça peut durer des heures et des heures, rechercher la scène parfaite, voilà, pour avoir l'orgasme, quoi.
Oui.
Et donc il y avait le côté excitant, donc ce côté échapper aussi, en fait, échapper à ses problèmes, échapper à la réalité, vous voyez. Et puis surtout, ce qui m'a fait vraiment, voilà, commencer à me poser des questions, c'est avec ma première copine,
oui,
où j'avais des problèmes d'érection.
Mmh.
Au début, j'ai pas fait le lien avec le porno, donc j'allais sur le net et du coup, j'ai commencé à chercher et j'ai vu que voilà, cause des problèmes érectiles, en fait.
Oui. En fait, vous dites que ça avait un impact sur votre vie sexuelle avec votre copine. Pourquoi? Parce que vous ne trouviez plus dans les échanges sexuels que vous aviez avec votre copine ce que vous trouviez sur le net, dans ces sites-là?
Oui, voilà, tout à fait. Bon, en fait, il a consommé beaucoup de porno, donc j'avais beaucoup d'images en tête, d'images, ouais, hard.
Mmh.
Et du coup, bah, en fait, ma copine ne m'excitait pas, en fait, autant que les films porno, en fait.
Est-ce que vous nourrissiez une sorte de culpabilité aussi par rapport à votre copine de consommer, hein, d'avoir cette espèce de vie secrète à côté, de consommation de pornographie, et puis au moment de l'acte avec elle, de ne plus être en phase avec elle?
Ah oui, tout à fait. J'étais, voilà, je me cachais pour aller voir ces films.
Oui.
Donc j'avais, bien sûr, je me sentais coupable aussi, voilà, de pas lui avouer, en fait, voilà, ce qui me pesait lourd, voilà, par rapport à cette addiction. Et c'est vrai que oui, je me sentais impuissant dans tous les sens du terme, impuissant sexuel et impuissant, quoi.
Mm-hmm. Alors en 2016, vous avez décidé d'entamer un sevrage. Je comprends ce qui vous a poussé à cela, parce que visiblement vous aviez envie de, voilà, de stopper cette addiction. Mais comment ça s'est passé? Comment on se comment on entame un sevrage par rapport à cette addiction au porno?
Alors, c'est en 2016 que j'ai commencé, en fait,
oui,
donc le sevrage. Donc je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Donc, j'ai lu beaucoup de livres sur la psychologie, des livres, justement, du docteur Carilla aussi. Et donc, j'ai vu des vidéos de personnes aussi qui avaient fait le sevrage sur Internet, des Américains surtout. Il y a beaucoup de personnes américaines qui parlent de ça, en fait, ce sujet-là, alors qu'en France, c'est quand même un sujet très, très tabou. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est vraiment, voilà, j'ai arrêté ma consommation. J'ai commencé à noter... Voilà, les choses qui pouvaient me faire rechuter, en fait, quelles émotions négatives j'avais, tout ce qui pouvait me pousser à rechuter, en fait, que ce soit des déclencheurs émotionnels, que ce soit des déclencheurs de stress, que même des choses que je pouvais voir à la télé, ou même sur des clips, de par exemple, de rap,
ouais.
Voilà, ultra-sexuel.
Ouais.
Tout ça, en fait, j'ai arrêté, en fait, et surtout, voilà, Je suis allé sur un forum aussi, pornodépendance.com, c'est un forum où donc j'ai pu discuter. Surtout, la clé aussi, c'est de ne pas rester seul. Parce qu'en fait, quand on est seul, on a cette honte, en fait, et l'important, c'est de casser cette honte.
Oui,
casser l'isolement, d'en parler.
On nourrit cette honte quand on est tout seul, on se tape dessus, et puis on nourrit cette honte. Comment ça va aujourd'hui, sexuellement? Vous êtes sorti de cette addiction, comment vous vous sentez aujourd'hui?
Alors, je me sens très bien. Je reste toujours vigilant aussi par rapport à ça, un peu comme l'alcoolique en fait, qui ne va pas boire de bière light par exemple, des bières, ce genre de choses. Moi, j'ai accepté mes failles, j'ai accepté cette faille qui est en moi. Mm-hmm. Donc, je reste quand même toujours vigilant sur les scènes que je peux voir.
Vous acceptez que vous êtes malade à vie, hein, que vous êtes fragile à vie.
Voilà, c'est ça. Je suis fragile à vie. J'ai accepté mes faiblesses, mais pour avancer en fait, pour m'améliorer et puis pour rester dans l'équilibre. Mm-hmm. Et sinon, avec ma compagne, ça se passe très très bien, parce que j'ai aussi un petit garçon. Donc on est très proches et donc les rapports sexuels se passent bien.
Eh ben écoutez, Hope 29, je sais que ça n'est qu'un pseudonyme, mais je vous souhaite, d'abord je vous félicite, vous êtes sorti, comme on dit dans ce type de groupe de parole, juste pour aujourd'hui, et visiblement ça a marché sur vous, juste pour aujourd'hui arriver à rester clean, hein, comme on dit, et puis surtout je vous souhaite bon courage pour la suite avec votre petit garçon, votre compagne, et mille merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1 aujourd'hui, car c'était très courageux. Je note au passage que vous donnez, par rapport à cette addiction, quelques conseils sur YouTube. Il faut juste chercher un petit peu pour vous trouver. Mille merci pour votre témoignage aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Et on voit, Omblin, écoutant Aube 29 ou en se remémorant le témoignage de Samir, que partager cette addiction, en parler et ne pas rester seul, ça a aidé en tout cas ces deux hommes à en sortir. Dans quelques instants, nous allons accueillir Michel, qui depuis l'adolescence a eu une addiction que pas mal d'hommes ont connue dans leur jeunesse. C'était une addiction à la masturbation. Aujourd'hui, il a travaillé sur lui et il va beaucoup mieux.
Europe 1. Vous êtes addict au sexe, comment arrivez-vous à gérer vos pulsions, parfois incontrôlables? Venez échanger avec nous le 3921 pour nous appeler.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous êtes addict au sexe, quel est votre quotidien? Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous retrouvons maintenant sur l'antenne d'Europe 1, Michel. Bonjour Michel, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Michel?
Alors, j'ai 50 ans et j'appelle de la banlieue de Nantes, à 20 km de Nantes.
D'accord. Alors, Michel, vous me dites que dès l'adolescence, vous avez eu une addiction à la masturbation. Dès l'adolescence, c'est-à-dire autour de quel âge exactement?
Bon, aux alentours de 15 ans, voilà.
15 ans.
Dimanche, voilà, c'est genre 15 ans à peu près. Ouais.
Et alors, lorsque vous parlez de dépendance, qu'est-ce qui vous fait dire, comment vous vous êtes rendu compte que c'était une dépendance?
En fait, tout récemment, hein, parce que j'ai commencé une psychothérapie à l'âge de, aux alentours des années 2000.
Oui.
Mais plutôt pour des difficultés professionnelles, rien à voir avec des difficultés. Enfin, je voyais pas les difficultés sexuelles, je voyais que j'avais des gros problèmes de relations avec les femmes. Mais voilà, j'ai fait donc surtout pour des difficultés professionnelles. Et puis je me suis rendu compte avec le temps, voilà, ma thérapie est terminée, hein, ça fait un an à peu près, c'est pour ça que je vous appelle, parce qu'il y a une stabilisation que je trouvais intéressante. Et c'est surtout, j'ai constaté que la masturbation, c'était pour moi un moyen, si vous voulez, d'évacuer les tensions, de baisser les tensions au niveau corporel. Alors ça, c'était surtout avant la thérapie, mais même pendant la thérapie, hein, et même encore aujourd'hui, parce que, enfin aujourd'hui, beaucoup, hein, mais je suis marié depuis 2000, des enfants, et même les relations sexuelles avec ma compagne, qui était plutôt satisfaisante, j'avais besoin de plus, si vous voulez, encore.
Que vous disait votre thérapeute par rapport à ça? Parce que on peut sentir dans ce que vous me racontez que la culpabilité peut venir assez vite. Or, se masturber, c'est quelque chose que hommes et femmes pratiquent de manière générale. Que vous disait votre thérapeute par rapport à ça et par rapport justement au fait que vous aviez une compagne, il vous disait que vous pouviez vous masturber quand même?
Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. J'en parlais beaucoup avec lui, même enfin, elle plutôt, parce que j'en ai eu deux. La deuxième, je lui ai parlé, en fait, surtout, ça s'est révélé au moment où j'ai eu accès à Internet.
Oui.
J'ai eu assez tardivement, parce que bon, je suis un peu de la vieille école, mais j'ai eu un ordinateur, vous voyez, avec accès à Internet il y a 6 ans, 7 ans. Et donc là, j'ai eu accès directement au porno, en streaming.
Oui.
Et là, ça a été révélateur, vraiment. Là, j'ai compris vraiment le problème de l'addiction, quoi.
Mm-hmm.
Parce que dès que je me retrouvais seul, dès que j'en avais besoin, il y avait ce côté excitant. Je suis même allé des fois sur des sites glauques, quoi. C'était Mais il y avait vraiment cette excitation et la problématique de. Donc j'ai compris l'addiction, c'est qu'il y avait après. Bon, souvent j'allais jusqu'à l'éjaculation, mais il y avait après la déception, le vide et finalement l'insatisfaction, quoi. Et il fallait à nouveau et toujours y revenir, quoi.
Et ce vide, il correspondait à quoi, en fait
Ma thérapie, ma psychothérapie que j'ai terminée montre bien, en fait, une relation avec mes parents difficile. Voilà, surtout avec ma mère. Donc, j'ai compris ça, j'ai travaillé beaucoup ça. Et surtout, l'interdiction qu'elle me mettait à avoir accès aux autres femmes, si vous voulez. Là, c'était pas dit comme ça, mais c'était vraiment insidieux. Et donc, le sexe, en plus, c'est mal, c'est dégueulasse, voilà, il y avait tout ça. Mm-hmm. Donc, il y avait une grosse problématique de relation avec les femmes. Et donc, le plus facile pour moi, c'est moi-même, quoi. Hein. C'est mon propre corps, oui, il y a un accès facile. Effectivement, votre leader disait pas besoin de séduire, pas besoin, voilà. Et c'est peut-être un peu moins dangereux quelque part que l'alcool ou la drogue.
C'est devenu finalement, comme beaucoup d'hommes ou de femmes qui nous écoutent là, c'est devenu votre sexualité, hein, celle qui vous finalement vous évitez d'aller vers l'autre, de séduire, et parce que vous manquez sans doute beaucoup de confiance en vous, et finalement cette sexualité, elle s'est imposée comme une facilité et elle a fait place à une addiction.
Mais c'est très insatisfaisant parce qu'on, si vous voulez, ça ne remplit pas, ça n'alimente pas, ça nous renvoie toujours à du vide, quoi.
On va finir avec le docteur Laurent Carilla, justement sur ce point. Docteur, soigne-t-on psychologiquement de la même manière un addict à la drogue qu'un addict aux relations sexuelles, à la pornographie ou à la masturbation, comme on vient d'entendre Michel?
Oui, on utilise les mêmes stratégies, en fait. Moi, j'ai calé mon programme de soins. Il a été calé sur, en fait, un travail que j'ai fait autour de l'addiction à la cocaïne. En gros, j'utilise des techniques de thérapie motivationnelle au départ, c'est-à-dire on booste un peu les gens à changer leur comportement. C'est très schématique. Hein. Et après, on va utiliser des stratégies cognitives et comportementales, c'est-à-dire savoir reconnaître les situations où on est sollicité pour du sexe, gérer ses envies, savoir dire non, gérer son stress. Donc c'est très cognitif et comportemental. Et dans la prise en charge, il faut quand même évaluer s'il n'y a pas dépression, anxiété, trouble du sommeil sous-jacent, parce que souvent le sexe est utilisé comme matrice thérapeutique pour ça, pathologique. Donc on les traite aussi de manière concomitante, si vous voulez. On peut être amené à utiliser des médicaments de type antidépresseur, par exemple.
En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, docteur Laurent Carilla, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on souffre d'une addiction sexuelle, on peut s'adresser à vous, on peut en tout cas trouver de l'aide. Et déjà, elle commence, comme l'a dit Samir et comme l'a dit Hope29, à travers ces groupes de parole. Merci beaucoup à vous, Michel, pour votre témoignage. Merci aussi à vous, docteur Laurent Carilla, de nous avoir apporté vos éclairages sur cette dépendance taboue. Nous remercions aussi, bien évidemment, Samir, Hope29, Dany, de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Le sexe, la pornographie sont des mots qui effraient dans notre société. Et lorsqu'on parle de pulsion, de conduite compulsive, d'addiction, cela l'est encore plus. On l'a vu, comme avec la drogue et l'alcool, elles sont très difficiles à réfréner, mais il est possible de modifier son comportement et son rapport au sexe. N'hésitez pas à vous faire aider. Il existe des forums comme dépendance-sexuelle.com ou porno-dépendance.com si vous souhaitez en parler avec d'autres personnes concernées. C'est peut-être par là que ça commence. Et puis aussi pouvoir consulter, comme le Laurent Docteur Carilla, un psychiatre addictologue que vous pouvez trouver dans pas mal d'hôpitaux en France. C'est la fin de cette émission. Oui. Et si vous voulez continuer à en parler,
bien sûr, il y a sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram, Olivier Delacroix officiel. Et puis n'hésitez pas à échanger le soir. Vous retrouvez Sophie Peters, la libre antenne d'Europe 1, de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
C'est vrai qu'avec Sophie Peters, vous pouvez continuer vraiment à parler de ce type de sujet.
N'hésitez
on le retrouve tous les soirs. Oui. Et je peux vous dire qu'hier soir encore, je l'écoutais et j'étais fasciné par les témoignages qu'on pouvait entendre chez Sophie. Demain, nous parlerons ensemble des rumeurs, des ragots au travail, des commérages qui peuvent aller très très loin. Dépression, démission. Si vous avez été victime de rumeurs sur votre lieu de travail, si des rumeurs vous concernant vous ont poussé à changer de travail, si une personne de votre entourage a été victime de rumeurs au travail, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. La rumeur, eh bien, elle fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et puis, à partir de demain, nous serons là pour vous écouter. Ma chère Ambline, oui. J'ai été ravi, comme d'habitude, de passer cette heure avec vous qui passe si vite. Et maintenant, nous allons retrouver notre cher Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Mais dis donc, moi, Carl, dis-moi, tu m'as l'air en pleine forme, non?
Ça va, Olivier? Eh bien, figure-toi que moi, j'ai le comte de Bouderbala et Jean-Pierre Mocky qui piaffent d'impatience de commencer les tontons flingueurs.
Eh ben, on va bien se marrer pendant une heure. Et puis nous, on se retrouve demain à partir de 15h. Salut!